OK, qu'est-ce qu'on fait avec ces tours à bureaux vides ou à moitié vides? Est-ce qu'on pourrait pas les transformer en logements sociaux? On va aller jaser avec François Saillant, auteur militant, ancien porte-parole du FRAPRU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain. Bonjour François.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu penses de l'idée? Je dis que c'est mon idée, mais elle circule quand même dans certains cercles présentement, là.
Oui, 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 c'est une idée qui circule effectivement. En soi, c'est intéressant. Je pense qu'on va reconnaître facilement qu'actuellement, on a un urgent besoin de logements sociaux et qu'il y a plusieurs moyens d'arriver à cette fin-là. Il n'y a pas juste la construction neuve. On peut convertir, par exemple, des bâtiments industriels, institutionnels. Ça va se faire avec l'hôpital chinois, des bâtiments commerciaux à Plaza Hutchison. On a fait une annonce il y a quelques semaines à la Ville de Montréal. Donc, il y a possibilité de le faire. Et en soi, effectivement, ces bâtiments-là sont libres. Ça pourrait offrir cette possibilité-là. Sauf qu'il y a quand même quelques affaires à faire attention. On a quand même connu, à travers l'histoire, des expériences qui ont été plutôt négatives à des moments donnés, entre autres de construire des grosses tours de HLM plutôt impersonnelles où tu parquais littéralement les gens. Il ne faudra pas répéter cette expérience-là. Il faut s'assurer que ça soit fait intelligemment. Il faut s'assurer qu'il y ait, entre autres, une proximité de service qui est à proximité. Là, il faut que tu aies accès à une épicerie, par exemple, au plein centre-ville de Montréal. Tu n'as pas nécessairement accès si facilement que ça. Je dis Montréal, mais ça peut être d'autres villes aussi. Ça prend une proximité d'école si on veut s'adresser à des familles. Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut faire attention. Il y a à travers le monde des expériences dans ce domaine-là. Certaines sont négatives. C'est le cas de certaines en Grande-Bretagne. D'autres semblent plus positives. Là. Donc, oui, mais faisons-le intelligemment.
Oui. Juste pour revenir à votre point, là, faisons attention de ne pas parquer des locataires dans un endroit où il n'y a pas d'épicerie, où il n'y a pas d'école. Mais serait-il possible que, suivant la logique « build it and they will come », là, c'est-à-dire tu construis, tu les amènes, tu construis dans le cas des édifices, tu les rénoves, et éventuellement tu as une vie sociale, et puis là se greffe à cette vie sociale des commerces de proximité, justement?
C'est possible, mais c'est possible que non aussi. Moi, je pense qu'au moins, si on veut faire ça, d'abord, choisissons pas les plus gros blocs. Et par ailleurs, faisons en sorte que même sur place, même téléservices dans l'édifice même, là, on parle quand même d'édifices qui peuvent être assez importants, qui peuvent avoir une fréquentation assez importante. Donc, je pense que ça pourrait se penser à l'intérieur même des immeubles si on va de l'avant avec ce projet-là.
Tu veux dire des commerces à l'intérieur, au rez-de-chaussée, tu aurais des commerces, oui, c'est ça.
Ce sont des cas comme ça existe, par exemple, dans certaines résidences plus grosses. Je pense, par exemple, au village olympique, où tu peux, à toute fin pratique, vivre sans jamais sortir du village olympique, mais tu pourrais avoir des services sur place. Bref, oui, mais il faut y penser et il faut agir intelligemment dans ce domaine-là pour ne pas répéter des erreurs connues par le passé. Il faut faire attention aussi aux coûts que ça impliquerait. Si c'est plus coûteux de faire ça là que de le faire ailleurs, c'est pas nécessairement un bon choix. Là. Je pense que ce qu'on doit avoir comme priorité, c'est d'abord de s'attaquer au problème du logement qui cette année prend une ampleur très surprenante. Là. Il n'y a pas grand monde qui s'attendait en début d'année à ce que ça soit si pire que ça.
Mais en même temps, François, tu vois, je suis en train de regarder un papier qui a été publié dans le Globe and Mail pendant le mois d'août, et il disait que, bon, tu as raison de dire, il faut faire attention, là, c'est pas n'importe lequel édifice qu'on peut convertir, mais l'édifice avec les bonnes spécifications de base, là, ça pourrait prendre un an. Puis, en un an, tu pourrais convertir un édifice de 20 étages en immeuble appartement. En une année, imagine-toi, c'est bien moins long que de le construire à neuf, là.
Effectivement, ça sera un des avantages pour moi, parce qu'on le voit à l'heure actuelle, on a 15 000 logements dont on nous dit qu'ils ont déjà été annoncés. Il y a déjà du financement pour ces logements-là. Ils ont tardé à se réaliser parce qu'il manquait justement de sous. Mais là, le gouvernement nous dit « je veux accélérer ça ». La Ville de Montréal rappelle ses besoins puis rappelle qu'elle s'est engagée, l'administration Plante, à réaliser 15 000 logements sociaux, et on va très difficilement y arriver avant l'année prochaine. Ben, si ça permettait ça, oui. Mettons pas tous nos œufs dans ce panier-là, mais si ça permet ça et c'est fait intelligemment, oui, pourquoi pas.
Voilà, excellent, François Saillant. Toujours un plaisir de discuter avec vous, avec toi, si tu me permets. Je rappelle évidemment que tu es un grand, grand défenseur du logement social. Tu en as fait la cause de ta vie. Merci, François. À la prochaine.
Merci, au revoir.
Luc Lavoie, bonjour.
Salut Bernard.
Bon Luc, je te le dis, c'est pas une histoire de flyer là. Avant de faire ce sujet-là, j'ai fait mes recherches. Puis je te le dis, dans des villes par exemple comme Toronto, Calgary, Vancouver, il y a effectivement de la conversion qui se fait. C'est des édifices qui ne trouvent plus preneur. Il y a plus de locataires du domaine commercial. Et puis là, tu as des propriétaires qui disent, garde. Je vais lui donner une seconde vie, je vais le convertir en immeuble appartement.
C'est sans doute ce qui va se produire à Montréal, éventuellement. Pas par une action gouvernementale, mais par la loi
du marché.
Qu'est-ce que tu veux, s'il n'y a plus de gens qui veulent louer ces 2-3 étages comme les grands cabinets d'avocats et d'ingénieurs et tout ça faisaient, s'il n'y en a plus, il va falloir faire quelque chose. Puis n'oublie pas que les grands perdants dans ça, sur le plan économique, sont les Québécois. Parce qu'un des plus grands propriétaires immobiliers au Québec, au Canada et même dans les grands du monde, c'est la Caisse de dépôt et placement.
À travers Ivanhoé Cambridge.
Il possède la place Ville-Marie, il possède une bonne partie du centre-ville de Montréal.
Il possède des centres d'achat aussi. Les centres d'achat, ils vont avoir la vie dure, là, mon Luc. Là.
Les centres d'achat ont déjà la vie dure. Ouais. Alors, il va falloir... L'idée est-elle bonne? Évidemment que l'idée est bonne. Elle est bonne parce que, bon, c'est là, c'est le centre-ville. Alors, pourquoi je construirais une autre tour à condo? J'ai une tour qui est là, on va la transformer, elle est vide. C'est sûr qu'on va en venir là, mais on va voir comment tout ça va retomber en place. Est-ce que, moi, je pense que oui. Moi, je pense que le télétravail, c'est là pour rester et d'une façon pas marginale, d'une façon très importante. Genre, 50% de moins de personnes dans les tours du centre-ville, d'après moi, ça va être à peu près ça le calcul en bout de ligne. Et c'est là qu'on va voir comment le marché va retomber sur ses pattes. Et à un moment donné, que ce soit la Caisse de dépôt ou peu importe qui est propriétaire, il va falloir qu'ils rentabilisent leur investissement. Alors, il n'y a pas ben des méthodes. Il y en a une qui consiste à transformer ça en logement, en condo, en ce que tu voudras.
Oui, c'est ça.
Mais une décision gouvernementale qui arriverait avec des incitatifs, non, regarde, on peut plus, là, on a mis partout de l'argent. Faut laisser la poussière retomber un peu.
Oui, mais en même temps, tu as vu, c'est la semaine passée ou la semaine d'avant, Québec et Ottawa ont finalement signé l'entente là sur le logement social. Ça représente des gros montants d'argent là qui vont être transférés au Québec, comme ils ont été transférés aux autres provinces. T'sais, Trudeau en a donné à tout le monde. Et puis, il y a une partie de cet argent-là qui s'en vient à Montréal pour faire du logement social. Moi, je serais pas étonné qu'il y ait des propriétaires immobiliers, Luc, qui voyant la manne, qui voyant le beau montant, disent à Valérie Plante, garde, j'ai un édifice à bureau, là, je vais te le convertir en immeuble appartement, comme ça, tu pourras prendre tes campeurs le long de Notre-Dame, t'sais, mais il va falloir que tu m'aides un petit peu, ma Valérie, avec une petite subvention.
Ben oui, ben c'est ce que je crains le plus, là, à travers ça. Écoute, Valérie, pendant que tu penses pas à tes bicycles, pourrais-tu penser à moi? Parce que j'ai une idée. Ouais. Une idée, c'est que je vais transformer mon affaire en condo, puis tu vas me donner un chèque d'une couple de 100 millions.
Ah, condo aura pas l'argent. Condo, il aura pas l'argent. Faut que ça soit du logement social, Luc.
Mais comment, Bernard, explique-moi, là, c'est quoi le
logement social?
Ça se base sur le revenu?
Oui, sur le revenu? Exact.
Puis est-ce que tu connais une ligne? Elle est où, la ligne?
Ah, ben là, par exemple, les gens qui sont sur l'aide sociale, ont droit à un logement, puis il y a une partie du chèque de l'aide sociale qui sert à payer le logement. Tu as des programmes là, très connus comme Accès Logis qui vont subventionner le loyer pour des personnes à faible revenu.
Mais je pense pas que tu peux penser à ça pour un édifice comme la Place Ville-Marie.
Là. Ah, peut-être pas pour la Place Ville-Marie, mais tu as des...
Pas mal de... Le centre-ville, c'est ça, là.
Les édifices, ça, ouais, mais t'en as des moins hauts que ça. Là, tu parles...
C'est ça. On va aller plus en marge, on va aller plus dans les plus petits, plus vieux, c'est
exact,
ça.
Exactement. Exactement, Luc.
Ben, c'est ce qu'il faut faire. Je vois pas de problème avec ça. Bon, c'est juste que l'argent public, il y a quand même des limites. Là. Ça pousse pas dans les arbres.
Non, ça, on s'entend.
Même qu'en automne, ça s'envole. Les feuilles, Bernard.
Arrête, tu vas te mettre à nous.
Les feuilles mortes se ramassent à l'appel et les souvenirs et les regrets aussi.
Je savais qu'il était pour tomber.
Et le vent du nord les emporte dans la nuit sombre de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié cette chanson que tu me chantais. Oui, Bernard.
C'est qui, ça?
Ça?
Oui.
Ben, c'était Yves Montand qui l'a rendu célèbre, mais c'était...
C'est quoi, Apollinaire?
Jacques Prévert. Bernard!
Luc,
les feuilles mortes.
Luc, t'es un poète.
À ma manière.
T'es un poète.
À ma manière.
Comme disait la dame qui accompagnait apparemment un ministre de l'Union nationale en visite à Paris...
Parlant à André Malraux, vous parlez tellement bien, vous devriez écrire vous.
Exactement. OK, on a les mêmes anecdotes. On s'en va à la pause. On se reparle un peu plus tard, notamment de M. Trump et du débat, pas du débat, de ses impôts qu'il n'a pas payés.
Bien sûr.
Bien sûr, à tout à l'heure. OK, on s'en va à la pause. Au retour, c'est Patrick Lagacé. Restez à l'écoute.
COVID-19, dès 17h30 aujourd'hui au réseau Cogeco. Importante annonce sur le niveau d'alerte du premier ministre François Legault, qui sera accompagné du ministre de la Santé Christian Dubé et du directeur de la Santé publique, le docteur Horacio Arruda. Soyez des nôtres pour connaître tous les détails avec Patrick Lagacé et ses collaborateurs.